RFI, le journal. Comme à Paris, il est 4h du matin, à Goma.
Théo Renaudon.
Il affirme qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a pris la parole ce vendredi soir. Il dénonce des décisions arbitraires de la justice suite à la levée de son immunité parlementaire. La France s'apprête-t-elle à reconnaître l'État palestinien ? Le chef de la diplomatie française prépare activement une conférence sur la solution à deux États prévue en juin. Paris pourrait reconnaître la Palestine à cette occasion. Et puis ce samedi, fin du festival de cinéma à Cannes, bilan des projections à la fin de ce journal. La dictature doit prendre fin. Les mots de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, envers le pouvoir de son successeur. Il a pris la parole ce vendredi soir pour annoncer qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours. Au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, il dénonce des décisions arbitraires prises par Kinshasa à son encontre. Écoutez.
Pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place, ne peuvent être éludés. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solution sécuritaire définitive sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous Congolais ne pouvons plus nous permettre.
Joseph Kabila, ancien président de la RDC. À Gaza, des camions d'aide humanitaire pillés la nuit dernière. Ils contenaient de l'aide alimentaire. De nombreux Palestiniens ont faim après 2 mois de blocage de l'aide alimentaire qui rentre de nouveau depuis plusieurs jours à Gaza. Les Palestiniens subissent la période la plus cruelle de ce conflit. S'est indigné le patron de l'ONU, Antonio Guterres. L'aide humanitaire entre enfin, mais ce n'est qu'une pincée de sel. Alors qu'un déluge est nécessaire, s'est insurgé le secrétaire général de l'ONU. La France va-t-elle très bientôt reconnaître l'État de Palestine ? Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a reçu hier après-midi ses homologues d'Arabie Saoudite, de Jordanie et d'Égypte. Objectif de la rencontre, préparer la conférence sur une solution au conflit israélo-palestinien dite à deux États qui doit se tenir en juin. Anastasia Becchio.
En décembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU avait adopté une résolution plaidant pour des négociations crédibles pour le processus de paix au Proche-Orient. Elle avait alors décidé de convoquer pour juin à New York une conférence internationale de haut niveau pour la mise en œuvre de la solution à deux États. La France et l'Arabie Saoudite ont été chargées de la présider. C'est dans cette optique que le chef de la diplomatie française a reçu ses homologues saoudiens, jordaniens et égyptiens. L'objectif est d'annoncer des actions rapides avec des échéances irréversibles qui doivent permettre d'aboutir à la création d'un État palestinien, explique une source diplomatique proche des travaux préparatoires de ce rendez-vous international. 148 pays reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine. La France pourrait-elle être le 149e ? Elle a déjà dans le passé envisagé cette reconnaissance sans la concrétiser. Jean-Noël Barrot a répété cette semaine qu'elle était prête à sauter le pas. Face à la crise humanitaire à Gaza et à l'impasse du processus de paix, des voix en France considèrent cette reconnaissance comme une nécessité morale et stratégique pour relancer une dynamique de paix. Mais les dirigeants français souhaitent aussi que cette initiative s'accompagne d'une reconnaissance d'Israël par certains pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite.
Anastasia Becchio du service international de RFI. Nuit difficile dans la capitale ukrainienne, Kiev. La ville est en alerte en raison d'une attaque de missiles et de drones russes. Les défenses anti-aériennes sont actives en ce moment même, selon les autorités ukrainiennes. Les Polonais ont les yeux rivés, eux, vers leur leur télévision ce vendredi soir. Les deux candidats encore en lice pour la présidence du parti se sont affrontés dans un dernier débat avant le scrutin qui doit les départager dimanche 1er juin. Une joute verbale qui n'a fait que confirmer la tendance conservatrice de la campagne. À Varsovie, Adrien Sarlat était devant sa télé.
Bonsoir mesdames et messieurs, on s'apprête à vivre le débat politique le plus important de l'année et peut-être même des 5 ans à venir.
Pendant 2 heures, Rafał Trzaskowski et son rival Karol Nawrocki se sont affrontés à coups de questions-réponses, parfois échaudées. Politique internationale, société, économie, mesures sociales, au total 6 thèmes ont été abordés. Et alors que Trzaskowski était attaqué sur son bilan en tant que maire de Varsovie, Nawrocki a cherché à se détacher de celui des conservateurs du PiS qui le soutiennent, mais dont il n'est pas membre.
Est-ce que je dois vous rappeler comment je m'appelle ? Je m'appelle Nawrocki, Karol Nawrocki, et je suis venu débattre en tant que candidat à la fonction de président. Et ça fait 7 fois que vous ne faites que répéter « le PiS, le PiS, le PiS », ça n'est pas sérieux.
Les questions autour de la thématique migratoire ont permis à Trzaskowski, d'ordinaire réputé libéral, de se présenter en garant ferme et intransigeant des frontières polonaises.
Nous déportons tous ceux qui enfreignent la loi. Le droit d'asile a été suspendu et le pacte migratoire européen ne verra jamais le jour, car j'ai écrit dans les documents européens qu'on aide déjà les Ukrainiens et qu'on n'accueillera personne d'autre.
Une droitisation de la campagne qui ne doit rien au hasard. Au premier tour, le parti d'extrême droite Konfederacja a accumulé plus de 20% des voix. Alors les deux finalistes arrivés au coude à coude l'ont bien compris, ce sont ces électeurs qu'il faut convaincre pour avoir une chance de l'emporter le dimanche 1er juin. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Tout n'est pas tout à fait revenu à la normale entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad prolonge d'un mois l'interdiction de son espace aérien aux avions indiens. L'Inde a fait pareil. Il y a 15 jours, les deux pays frères ennemis ont connu leurs pires affrontements militaires de l'histoire, 70 morts par drones, missiles et tirs d'artillerie. Le groupe français Total Energy assure qu'il maintient ses objectifs de transition écologique, et ce en dépit du contexte économique mondial incertain dû aux guerres commerciales américaines. Message adressé à ses actionnaires réunis en assemblée générale ce vendredi à Paris, à l'intérieur de l'immense tour de verre siège du groupe Total. Alors à l'extérieur, les militants écologistes se sont rassemblés pour dénoncer la poursuite d'exploitation d'énergie fossile par Total Energy. La 78e édition du Festival de Cannes se termine ce samedi soir. 2 derniers films ont été présentés en compétition ce vendredi, notamment Jeune Mère, dans la veine du cinéma documentaire des réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, les frères Dardenne, réalisateurs qui ont déjà reçu 2 Palmes d'Or à Cannes. Autre documentaire, Mastermind, de l'américaine Kelly Reichardt. Isabelle Chenu nous dresse le bilan de ces 10 derniers jours de projection.
L'édition 2025 du Festival de Cannes aura été cinéphile et politique. L'hommage le plus évident au 7e art, c'est Nouvelle Vague de l'américain Richard Linklater, qui ressuscite avec beaucoup d'humour en noir et blanc le tournage d'une pièce maîtresse du cinéma à bout de souffle de Jean-Luc Godard. On a aussi pu voir 2 très beaux films de famille, signés de l'Espagnol Carla Simón et du Norvégien Joachim Trier, qui montrent comment le cinéma peut servir de réparation au trauma intergénérationnel. L'autre axe du festival, ce sont des portraits de simples citoyens, brisés par des régimes autoritaires ou totalitaires. Sergueï Losnitsa suit un jeune procureur intègre, broyé par les purges staliniennes des années 30. L'Iranien Jafar Panahi, qui a tourné son film dans la clandestinité, questionne la vengeance. Faut-il se mettre au niveau de ses tortionnaires ? Le Français Dominique Moll enquête sur les violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes, tandis que le Suédois Tariq Saleh dresse une satire sans concession du régime égyptien du président Al-Sisi. Mais le film coup de poing du festival est sans conteste Sirat de l'Espagnol Oliver Lax, un univers à la Mad Max très remarqué. Isabelle Chenu, Boris Vichit, Cannes, RFI.
Des centaines de milliers de feux d'artifice en Italie. Le ciel de Naples brille de mille feux, orgie de lumière. La ville a remporté la Coupe d'Italie en football ce vendredi soir. Naples sacrée championne pour la 4e fois de son histoire. L'équipe a battu Cagliari 2-0. Naples déjà titré en 87, 90 et 2023. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes.